Les ressources humaines sont censées concerner les humains. Je veux dire, c'est juste là dans le nom.
Oui, Chad, mais lorsque votre équipe de recrutement ressemble plus à une chaîne de montage, collée à ses ordinateurs, publiant manuellement des tas d'emplois partout où elle peut penser, cette partie humaine semble introuvable.
C'est pourquoi Pando IQ supprime le copier-coller et les conjectures angoissantes du processus de publication d'offres d'emploi. Lorsque vous planifiez une campagne d'embauche avec Pando IQ, vous leur dites de qui vous avez besoin. Ensuite, avant que vous dépensiez un centime, nous prévoyons ce qu'il vous en coûtera pour les trouver.
Pando IQ choisit les sites de recrutement idéaux parmi des milliers d'options. Ciblez ceux que votre prochaine grande recrue visite fréquemment, puis lancez vos annonces à des heures calculées avec précision, en faisant apparaître les candidats les plus pertinents parmi lesquels vous pouvez choisir.
Pando IQ vous donne le temps de trouver les meilleurs talents, de constituer de grandes équipes et de prendre soin de vos humains.
Pour plus d'informations sur Pando IQ, rendez-vous sur pandologique.com. C'est pandologique.com.
Et, c'est Chad, non, pas le vrai Chad, le Chad cloné. C'est vrai, nos voix sont clonées et traduites dans votre langue maternelle par les génies de Veriton. Nous sommes tous nouveaux dans ce domaine et nous apprécierions donc vos commentaires et suggestions. La prestation et le contexte se déroulent-ils bien? Et la vitesse? Trop vite? Trop lent? Vos commentaires et suggestions peuvent améliorer l'IA et le podcast. Découvrez toutes les technologies intéressantes que Veriton a à offrir sur veriton.com. Merci d'avoir écouté et merci à Veriton, c'est Aïchad qui dit « Faisons ça ».
Hide your kids. Lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Soash and Joel Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it hurts. Complete with breaking news, brash opinion, and loads of snark. Buckle up, boys and girls. It's time for the Chad and Cheese Podcast.
Oh, ouais, deux gars partageant un verre appelé « Solitude », mais c'est mieux que de boire seul. Salut les enfants, c'est le podcast The Chad and Cheese, je suis votre co-animateur, Joël, Solar Eclipse, Chissement.
C'est Soash, le « Girl Power » de Chad.
Et dans cet épisode, LinkedIn, TikTok, Indeed Source et Amazon se retirent, et achètent ou vendent. Faisons cela. Avez-vous entendu dire qu'il y a un grand événement dans l'Indiana lundi appelé l'éclipse solaire?
Oui, nous avons une petite ville ici, Columbus, Indiana, 40 000 habitants, et ce week-end, nous sommes censés avoir 250 000 habitants parce que nous sommes sur le chemin direct. C'est vraiment fou.
Ma tante à Little Seymour, qui est plus petite que Columbus, ils attendent environ 100 000 personnes. Ce sera formidable pour l'économie, c'est sûr. J'espère que la météo coopérera.
Ouais. Eh bien, je veux dire, quoi qu'il arrive, ce n'est pas comme si les gens n'allaient pas acheter de la merde, n'est-ce pas? C'était drôle, je suivais une thérapie physique ce matin, toute cette histoire d'épaule, et tout le monde parlait de faire ses courses, de... C'était presque comme une apocalypse. Eh bien, tu dois t'assurer de faire tes courses, tu dois récupérer tes affaires, entrer. Je me demande, pourquoi? Je veux dire, tu te dis, eh bien, tu ne pourras pas faire l'épicerie. Tout le monde va tout racheter.
4 minutes de nuit. Le milieu de la journée va tout détruire. Comme les auditeurs le savent, ma femme est scientifique, professeure, donc on se retrouve, on ne fait pas vraiment de fête à notre âge, on se retrouve. Et Sun King, une brasserie populaire ici dans le centre de l'Indiana, propose une bière éclipse.
Ils le font tous.
Je ne sais pas comment ça s'appelle, on a. C'est fou, ouais, on a deux brûleurs prêts à rocker pour mardi, on a les verres, ouais, ouais. Je l'appelle l'éclipse de Jolie.
C'est tellement mauvais, tellement mauvais. Alors, comment s'est passé Pâques? Très vite, tout bon.
Pâques était bien, Pâques était aussi l'anniversaire de Jérémy, mon fils de 7 ans. Pâques, c'était donc Godzilla contre King Kong.
C'est génial.
Ou alors, ils font équipe pour se battre. Des monstres qui s'entretuent, c'est génial.
Aimé.
Chasse aux œufs de Pâques. Si mon père de 84 ans était venu, nous avions, au choix de Jérémy, pizza Sammy's, sélectionné de gros broyeurs avec du pepperoni et de la pizza et du fromage, ce qui me convient parfaitement.
Et calzone.
Et c'était tout. Et toi?
Ouais, je suis allé à Clarksville, Tennessee. Mon frère et ma belle-sœur s'apprêtent à déménager en Australie, j'ai hâte d'aller leur rendre visite. Nous leur rendons donc visite ainsi qu'à leurs 3 jeunes garçons. C'était donc un bon moment. Et littéralement à Pâques, nous avons commencé à boire vers 10 heures.
Bon.
Un autre beau-frère a en fait fait une poitrine et des côtes aussi grosses, et donc oui, c'était plutôt génial, c'était un bon adieu, disons simplement ça.
Ouais, Eh bien, je n'ai pas lu de tes nouvelles lundi, donc j'ai supposé que tu avais soit la gueule de bois, soit que tu te remettais d'une overdose de poitrine.
Revenir en arrière et essayer de ne pas m'endormir au volant avec toute cette putain de poitrine sur le ventre.
Avez-vous un whisky du Tennessee préféré?
Non, je ne suis pas un grand fan de whisky du Tennessee, et il y a tellement de bourbons dans le Kentucky que je ne les ai tout simplement pas dépassés. Sans oublier, j'ai vraiment hâte, on en reparlera plus tard, les enfants, notre voyage en Écosse.
Ouais, taquine. J'aime Bibb & Tucker, essayez-le si vous ne l'avez pas encore fait, si vous aimez les whisky. Bibb & Tucker, et c'est une bouteille cool.
Bavoir et Tucker.
Et une bouteille fraîche aussi. D'accord.
Crier.
Très bien, nous allons d'abord crier, gamin, à Sébastien Detmer, le PDG de Stepstone. Ainsi, plus tôt cette semaine, il a publié ce qui suit sur LinkedIn. Après mes réflexions, j'ai décidé de me lancer dans un voyage de désintoxication numérique et nous nous déconnecterons pendant les 3 prochains mois. Pendant mon absence, tous les standards internes et les demandes externes seront entre les mains virtuelles et compétentes de ChatGPT grâce à un partenariat innovant entre ICIO et OpenAI. Le message continue donc, mais après avoir lu ceci, j'ai contacté quelques amis, et d'ailleurs j'étais encore fou de Pâques, chez Stepstone et Appcast. Je me disais, mec, c'est quoi ce bordel? Et je n'ai eu que des emojis rieurs, et il t'a eu. Oui, c'était un poisson d'avril, et oui, Sébastien, tu m'as eu, mon ami, tu m'as eu. Bon travail. Bon travail sur celui-là. Je déteste le poisson d'avril.
Peut-être a-t-il écouté cette émission parce que nous avons parlé du départ des PDG et de leur remplacement par l'IA. Ce n'était donc pas si inhabituel pour nous, c'était bien de voir quelque chose comme ça. Bon travail.
C'était bien. C'était bien. C'est bien, c'est bien.
Mon premier cri, je suis sûr que vous l'avez vu, Taïwan a eu un grand tremblement de terre cette semaine.
Ouais. Massif.
Et j'ai été étonné de voir à quel point l'infrastructure l'a bien géré. Ils avaient un immense bâtiment, c'était bien, des ponts, c'était joli, plutôt bien entretenu. Il y avait quelques bâtiments, mais les bâtiments qui sont tombés n'aimaient pas s'effondrer en poussière, ils sont tombés de la base, la plupart des gens ont été sauvés, c'était juste. Bravo à Taïwan et à ses infrastructures, contrairement à nous, un bateau heurte la base d'un pont et le tout s'effondre comme un pont de cure-dent. Je ne sais pas s'il est trop tard pour le projet de loi sur les infrastructures, mais les États-Unis ont cruellement besoin de l'ingénierie taïwanaise.
Ouais, je pense que n'importe lequel de ces bâtiments qui aurait été heurté par un porte-conteneur serait tombé. Mon cri à Girl Power, c'est vrai. L'AP rapporte que les billets pour le final four féminin sont sur le marché de la revente et se vendent en moyenne, préparez-vous, les enfants, à 2 300 $, soit 2 fois plus que le final four masculin. Et vous devez remercier Caitlin Clark de l'Iowa pour cela, Camilla de Caroline du Sud. Mon Dieu, elle est grande et elle est comme le Shaq du basketball féminin de la NCAA. Pech Becker, Angèle Reese. Mais les matchs du vendredi opposent l'Iowa au Connecticut, la Caroline du Sud à l'État de Caroline du Nord. C'est vraiment génial parce que je sais que tu te souviens d'avoir assisté à des matchs de basketball entre filles et que les scores étaient de 35 à 12, n'est-ce pas? C'était atroce de regarder le basketball des filles, mais maintenant j'aime regarder les filles jouer plus que les mecs. C'est incroyable.
Ouais. Et pour en revenir à votre point, c'était une affaire de score élevé si c'était 35 contre 12, c'était un banger, bébé, à l'époque.
Un pétard.
Totalement. J'ai donc des amis à Cleveland, où se déroule le final four, et je peux confirmer qu'ils ont contacté ou essayé d'obtenir des billets de deuxième marché, des billets de rechange. Et le moins cher qu'ils ont trouvé était de 800 $ le billet, et c'est une arène professionnelle, ce n'est pas comme un gymnase de lycée.
Genre 20 000.
Cela est légitime. Tellement énorme. Et je vais gâcher certains d'entre eux, mais l'audience du match Iowa LSU a dépassé, je pense que les Grammy, comme chaque remise de prix, la plupart des matchs des séries éliminatoires de la NBA, une très grande audience, et je pense que c'est fantastique.
Il y a une revanche de la finale de l'année dernière.
Rematch. Mais de superbes personnages, une belle histoire avec ces deux-là. Caitlin Clark sera très probablement le premier choix à venir dans l'Indiana l'année prochaine. Et en tant que résident de l'Indiana, je ne peux pas être plus excité de la voir. Ils ont également eu le premier choix l'année dernière, donc ils pourraient être le poids lourd d'une équipe WNBA, ils vont vendre l'arène, ce qui est incroyable. Ils pourraient surpasser les passeurs en moyenne par match et par siège.
Ce n'est probablement pas difficile, mais oui.
Ouais, je veux dire, les passeurs sont quand même plutôt bons, mais ouais.
C'est dommage, ouais.
Donc mon cri s'appuie sur cela. Je pense que cela a été la folie de mars la plus amusante dont je me souvienne depuis longtemps. Et une grande partie ne vient pas du... Même dans la NCAA, vous avez mentionné le basketball féminin, ce à quoi je fais écho. Le NIT est l'un des tournois les plus amusants que j'ai vu depuis longtemps. Maintenant, l'Indiana State n'a rien fait depuis que Larry Bird était là-bas dans les années 70, ils sont la tête de série numéro 1, ils auraient dû être dans la NCAA. Mais je suis content qu'il ne le soit pas parce que maintenant il joue dans le Final Four, qui se déroule dans l'Indiana, il joue à Butler, ce qui si vous êtes un Hoosier du Midwest, c'est comme du folklore, c'est Marlin, le film Hoosier, c'est une arène historique très ancienne. L'Indiana State sera essentiellement l'équipe à domicile. Dans ce truc, ils ont battu Utah et ils affrontent cet rôle, je pense, pour le championnat, donc c'est comme une grande école jouant contre Indiana State. C'est tellement amusant. Et ils ont ce type, il s'appelle Robbie Avila, et il porte ses lunettes rétro, comme Karim en portait, et Worthy. Et il mesure environ 6 minutes 9 secondes, je pense, un homme blanc. Oh, il est mixte, il est à moitié hispanique, à moitié blanc, et il a les meilleurs surnoms. Ses surnoms incluent Krim, Abdul-Jabbar, pas Karim, mais Crème. Comme le soda à la crème. Larry Nair, Larry Bird et Milk Chamberlain en sont un autre, donc de super surnoms là. Et puis vous avez. Et puis vous avez Digiana NC State. Vous avez mentionné les grands gens du monde. Au milieu, ce type, il est coté à 275. Il n'en a pas vu 275 depuis la 8e année, je ne sais pas d'où ils tiennent ça, mais ce mec a de la personnalité, il est amusant. NC State est un outsider. Purdue est dedans. Purdue est comme un All-American et une bande de rats de gym de l'Indiana, donc c'est amusant à regarder, un retour aux équipes des années 80 et 70. Mais, je pense, crier à March Madness, si le mois dernier c'était les Six Nations, ce mois-ci a été March Madness, et ça a été très amusant.
Amen, amen. Eh bien, un cri. Le dernier merci va au truc gratuit, c'est vrai, des t-shirts gratuits de l'application Aaron, de la bière et du whisky gratuit qui arrive à votre porte, de la bière d'Aspontech Lab, du whisky de Text Kernel, une bouteille de Joël, une bouteille de moi. Et si c'est ton anniversaire, pourrais gagner du rhum chez nos copains de Plum.
Pouvez-vous sentir la tension dans l'air en ce moment? Je sais que je peux. Je peux le sentir jusque dans mes prunes.
D'accord. Quelques auditeurs célèbrent un autre voyage autour du soleil, une éclipse solaire. Je ne sais pas s'il y a un lien là-dedans. Todd Burns, Amy English, Arnaud Schaeffer, Derek Christensen, Rob M. Saintosh, Louis Nobrek et Patrick York.
Joyeux anniversaire.
Et voilà. Célébrez tous un anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire à vous les gars.
Excellent. Eh bien, je n'irai nulle part pour l'éclipse parce que nous nous préparons à aller à Vegas, mon ami, nous nous préparons à aller à Vegas.
Oui, nous sommes. Oui, nous sommes. Alliage America revient à Las Vegas, du 7 au 9 mai. La veille, le 6 mars, Joël et moi allons nous défoncer. Non, pas si haut, nous allons au sommet de la stratosphère et nous sautons à plus de 800 pieds de hauteur avec notre ami Matt Bauer, le PDG de Tyr, c'est vrai. Ou Tyr. De plus, ou Tyr paie pour que nos auditeurs se joignent à nous pour faire le saut. Donc, si vous souhaitez vous inscrire pour gagner ou nommer peut-être votre patron ou un ami pour sauter avec nous, rendez-vous sur chatcheese.com, c'est juste là dans l'entête du héros. Cliquez sur le bouton Jump with US directement sur la page d'accueil. Inscrivez-vous et venez nous voir alors. Venez nous voir tomber sur terre. Puis le mardi 7 mai, c'est là que Kibu entre en jeu, on se dirige vers le bar minus 5 avec Job, Pixel et des gens formidables. Plus de détails à venir, mais je vous le dis tout de suite, on va se sentir en Finlande, il va faire froid, on va avoir les grosses doudounes, je vous le garantis. Et puis enfin, et surtout, le 8 mai, nous rejoignons nos amis chez Plum, au Néon Bonneillard, tu adores Little Néon, voici Little Chad et Cheese Néon, où nous allons boire, manger et nous prélasser dans la lueur du soir des enseignes au néon emblématique de Las Vegas. Vous connaissez ces vieilles enseignes au néon dont vous pensiez qu'ils se débarrassaient? Oh, ils ne s'en sont pas débarrassés, les enfants, ils sont tous dans un cimetière de néon. Google, cimetière de néon. Regardez-le, c'est vraiment génial. Nous là-bas avec nos amis de Plum, ça va être un super déchaînement. Ça va être génial, mais je n'ai rien entendu après, sautant vers ta mort, dès ton premier segment. J'essaie. Il y a donc une limite de poids de 265, je pense. J'essaie de. Je vais voir combien de burritos il faut pour arriver à un point où j'arrive sur la balance et ils me disent, mec, tu es trop lourd, désolé, désolé. Et sinon, je dois investir dans des dépenses parce que je vais chier dans mon froc quand je sauterai. Quand je sauterai de ce truc. Oh mon Dieu, c'est pour les annonces?
C'est ça.
Très bien, nous avons de la viande rouge pour les auditeurs cette semaine. Indeed a réorganisé sa page de profil utilisateur en introduisant un rédacteur basé sur l'IA pour améliorer les descriptions d'expérience de travail et prendre en charge plusieurs CV. Elle a également lancé des suites de sourcing intelligentes pour les recruteurs, comprenant des résumés de candidats alimentés par l'IA et des messages personnalisés visant à réduire la portée pertinente et à rationaliser les processus de recrutement. Chad, que pensez-vous des dernières mises à jour d'Indeed?
Ce n'est rien de plus qu'une simple façade en haut de l'entonnoir. Pourquoi Indeed fait-il davantage d'efforts pour descendre dans l'entonnoir? L'IA reprend, pleine d'hallucinations et s'applique facilement, c'est la recette pour un putain de désastre. Comment tout cela aide-t-il les entreprises à trouver les bons candidats? Eh bien, ce n'est tout simplement pas le cas. Donc, si Indeed voulait avoir un réel impact, il descendrait dans l'entonnoir et s'associerait à des plateformes comme Tavio ou HackerRank pour commencer à collecter des compétences et des données de performance qui comptent réellement. Les tests de codage, les tests de performance, rassemblent les données dont les employeurs ont réellement besoin. Aussi, à partir de cet article, j'ai trouvé ça intéressant, Talent.com a été mentionné dans l'histoire comme un concurrent.
C'était, ouais.
Je veux dire, allez, mec, beaucoup de ces agrégateurs ne font que ramasser les miettes, ils n'innovent pas, ils ne font pas bouger les choses et ils ne sont certainement pas des concurrents. Donc, si vous, Talent.com et les concurrents, si vous voulez rivaliser avec Indeed, battez-les, descendez l'entonnoir, collectez les données que les employeurs et les LLM, oui, les grands modèles linguistiques, utiliseront pour améliorer les correspondances pertinentes. La raison pour laquelle je déteste si fort Indeed, c'est parce qu'ils ont les moyens de changer cette industrie, et pourtant, ils changent les rideaux dans ce putain de sous-sol. Par exemple, la planification des entretiens, ils en parlent. En 2024, la planification des entretiens devrait être une putain de réflexion après coup, lorsqu'un candidat postule pour un emploi, répond à certaines questions de présélection et de présélection auxquelles il doit répondre. S'il répond aux exigences, il devrait avoir un bouton « Interviewer maintenant » qui apparaît et cela vous amène directement à un qualifié, un pilier ou un vétérinaire pour un entretien. Je veux dire, nous devrions faire des économies, au lieu de simplement jouer au jeu de la poudre aux yeux. Et c'est tout ce que fait l'Indeed, et je déteste ça.
60% du temps. Cela fonctionne à chaque fois.
Dis-nous ce que tu ressens vraiment, Chad. Les deux barils.
Je considère donc cela comme si Google s'est prononcé et s'est attaqué au secteur des sites d'emploi et aux offres d'emploi. Et cela semble être en grande partie atténué. Comme Google l'a dit, nous n'entrons pas dans le paiement par clic, nous vous laissons quand même mettre vos offres d'emploi dans notre recherche. Alors maintenant, on se demande quel est l'autre front de la guerre d'Indeed auquel ils doivent penser. Et c'est LinkedIn, à mon avis. Donc, pour moi, ces deux mises à jour sont des réactions à ce que LinkedIn ne parvient pas à faire ou a effectivement écrasé en dehors de son jardin clos. Donc, avec la recherche d'emploi sur LinkedIn est nulle, les recherches ou recommandations associées sont horribles. Donc, si je suis Indeed, j'ai déjà une meilleure recherche d'emploi que LinkedIn, alors que fait LinkedIn que je puisse faire de mieux? Eh bien, sur LinkedIn, je ne peux généralement avoir qu'un seul profil, n'est-ce pas? Et maintenant Indeed sort, oh, maintenant vous pouvez avoir 5 CV, donc si vous voulez qu'un soit axé sur une compétence spécifique, vous pouvez, si vous voulez un autre CV, un spécifique. Personnellement, cela peut très mal tourner. 5 CV par personne.
C'est stupide.
Mais au moins en théorie, c'est une grève contre LinkedIn car LinkedIn n'a qu'un seul profil. C'est donc un différenciateur, que ce soit digne ou non de concurrencer LinkedIn, je suppose que nous le saurons, mais c'est une démarche pour s'en prendre à LinkedIn. Je pense que le produit ou la mise à niveau le plus important est l'outil de sourcing qui, d'après au moins un initié à qui j'ai parlé chez. En effet, ils sont vraiment concentrés sur le sourcing, ils ouvrent vraiment les trappes, tout le monde est sur le pont. Deux choses.
Eh bien, c'est une affaire de LinkedIn. Ils veulent supprimer les postes de recruteurs.
Et c'est exactement une affaire de LinkedIn. Nous avons donc parlé du fait que LinkedIn écrasait efficacement toutes les autres solutions tierces utilisant ces données. Les six coups du monde, les eartools, l'embauche. Il est comme. Donc Indeed a dit, écoutez, nous ne pouvons pas laisser LinkedIn s'approprier ce truc de sourcing, nous avons aussi énormément de CV, donc comment pouvons-nous inciter les gens de notre écosystème à rechercher nos CV, puis à rechercher, à envoyer des messages efficaces, etc., à ces personnes. Donc, pour moi, tout ce déménagement d'Indeed est une grève chez LinkedIn. Je pense que le sourcing est vraiment intéressant, je pense que la recherche d'emploi, comme vous l'avez dit, c'est du rouge à lèvres sur un cochon, mais ils ont clairement LinkedIn en ligne de mire, et je ne pense pas que ce soit leur dernière grève. Que je vais faire sur LinkedIn.
Eh bien, pour améliorer le sourcing, il faut de meilleures données pour de meilleures correspondances. Nous savons déjà que leur correspondance est de la merde, ce n'est probablement pas aussi mauvais que celle de LinkedIn, mais leur correspondance est déjà de la merde. Ils ont besoin de meilleures données pour pouvoir se mesurer. Avoir 5 CV, c'est vraiment stupide. Je veux dire, c'est comme un retour vers le futur. Combien de merde pouvons-nous jeter là-bas pour que les gens puissent les regarder? Je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est de savoir si ces personnes répondent aux exigences, ont-elles les compétences et peuvent-elles être performantes? C'est ça, non? Et puis allez-y et faites-moi directement participer à l'interview, et à ce moment-là, nous pourrons voir s'il y a une correspondance, d'accord? C'est ça les gars, c'est aussi simple que ça. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent en haut de l'entonnoir. Et ça n'a pas d'importance. Rien de tout cela n'a d'importance. Rien de tout cela n'a d'importance, alors descendez l'entonnoir. Et encore une fois, pour tous les talents.com qui existent, les Edzuna, je veux dire, même les entreprises qui ne ressemblent même pas à leurs concurrents Indeed, descendent dans l'entonnoir, obtiennent ces données parce que le marché est entièrement axé sur les grands modèles de langage et être capable de broyer ce pool de données, ces nouvelles données que LinkedIn ne possède pas, qu'Indeed n'a pas, obtenez ces données pour gagner.
Je ne pense pas que Chad soit impressionné, tout le monde. Je ne pense pas que Chad soit impressionné du tout.
Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas?
Passons à l'actualité de LinkedIn et voyons si cela vous impressionne. LinkedIn teste des options vidéo de style TikTok dans le but d'aider les utilisateurs à découvrir des vidéos d'actualité. La fonctionnalité apparaîtra à côté du bouton « Accueil » et ressemble à TikTok et Instagram réel. LinkedIn prévoit de fournir très prochainement plus d'informations sur le nouveau service. Alors Chad, êtes-vous prêt à karaoké et à danser sur le concurrent TikTok de LinkedIn?
Ils avaient une version d'Instagram réel à un moment donné, puis ils l'ont simplement détruite. Pourquoi font-ils cela? Je veux dire, est-ce que TikTok leur vole leur adhérence? Voit-il que TikTok a la viscosité qu'ils souhaitent? Et nous en avons parlé la semaine dernière, on a l'impression qu'Indeed s'efforce davantage d'essayer d'être collant pour les dollars publicitaires, n'est-ce pas? Pour pouvoir garder les gens sur la plateforme, pour pouvoir obtenir ces dollars publicitaires. Et l'une des choses dont nous avons également parlé, c'est que LinkedIn ne s'en tient pas à certains de ces grands projets qu'ils mettent en place, ils doivent embaucher quelqu'un avec de la discipline, de la concentration et une foutue patience, pour l'amour de Dieu. Certaines idées ont du sens si elles sont bien mises en œuvre, mais pour le moment, je mets nos vidéos sur TikTok, puis je mets déjà les mêmes sur LinkedIn, donc je veux dire, je ne comprends pas comment cela va changer. Comportement du tout.
Il y a quelques semaines, j'ai mentionné que je pensais que LinkedIn avait abandonné la vidéo trop tôt, ils ont déjà essayé, vous avez dit, réel, je les aurais appelés des sortes d'histoires de Snapchat, dont ils se sont rapidement débarrassés. Et j'ai l'impression qu'avec notre expérience vidéo, nos courts-métrages, vous voyez de plus en plus de courts-métrages parce que chaque plateforme de podcasting créera des courts-métrages pour vous. Nous allons donc en voir davantage dans tous les secteurs, et nous en profitons. C'était une mauvaise idée parce qu'on aurait pu voir où le monde allait, et y renoncer était une mauvaise décision. Il semble que maintenant ils vont relancer une sorte de système de court-métrage vidéo, ils l'auront probablement davantage dans le flux principal, ils ne l'auront pas seulement sous forme de cercles en haut qui sont en dehors de la zone du flux principal. Cela augmentera l'engagement, cela augmentera l'intérêt pour la publicité. Les agences adorent ces vidéos, les petites entreprises peuvent réaliser ces vidéos très rapidement. L'IA va faire beaucoup plus de vidéos, certains de ces courts-métrages. Je pense donc que c'est une bonne décision. Ils n'auraient jamais dû s'en sortir, à mon avis. Maintenant, la deuxième chose qu'ils doivent faire, c'est la vidéo en direct parce qu'ils sont horribles dans ce domaine et ils devraient être vraiment bons dans ce domaine. De toute évidence, vous devez faire appel à un tiers même pour diffuser sur LinkedIn, ils devraient avoir leur propre truc. Et au fait, X, que je sais que vous aimez, s'améliore en matière de vidéo en direct, de conversation en direct, et ce sera quelque chose que LinkedIn doit bien faire. C'est donc la première étape vers la vidéo, ils doivent s'entraîner comme avoir des webinaires et des podcasts comme celui-ci en direct, diffusés en direct sur LinkedIn. Et je pense qu'ils ont quelque chose d'assez intéressant. Sinon, espérons qu'ils ne s'en remettront pas comme ils l'ont fait. Les histoires qu'ils ont eues il y a 6 mois ou 1 an.
Ouais, eh bien, je vois, encore une fois, du côté de la publicité, cela donne un autre véhicule pour pouvoir faire de la publicité, n'est-ce pas? Donc, pas seulement pour que nous puissions faire des extraits de podcasts ou des courts-métrages ou autres, mais cela va autoriser les publicités, ces publicités au guacamole que nous avons vues, qui étaient des publicités statiques au guacamole, nous allons avoir une publicité sur LinkedIn. Encore une fois, je vois vraiment cela se transformer davantage en une plateforme publicitaire et s'éloigner littéralement, à certains égards, du domaine du recrutement, car il y a beaucoup plus d'argent dans la publicité, s'ils peuvent conserver ces sièges de recruteurs, ce que nous avons tous. Je sais que les RH sont vraiment lentes à évoluer en premier lieu, mais ensuite s'attaquer très rapidement au côté marketing de la maison, alors cela a du sens. Nous verrons cependant si cela fonctionne.
Écoutez, historiquement, LinkedIn est nul en matière de publicité. Je veux dire, ils ont toujours ces petites publicités similaires sur la droite. C'est comme, allez. Alors oui, pour obtenir quelque chose de vidéo, quelque chose d'interactif, chaque agence dira, donnons un autre regard à LinkedIn, là où nous n'avons rien fait là-dessus depuis longtemps, donc.
Prenez cet argent de Twitter, ce Twitter. Nous avons vu des rapports selon lesquels ils ont effectivement pris de l'argent de Twitter. Et je dis « ils », ce sont des entreprises qui dépensaient de l'argent sur Twitter, et elles veulent le dépenser pour des plateformes comme LinkedIn. LinkedIn veut leur donner l'opportunité d'obtenir ce putain d'argent Twitter.
Oui, et l'intégration dans les plateformes publicitaires. Écoutez, les entreprises voudront créer une seule publicité TikTok. Et comment le mettre sur Twitter? Comment le mettre sur LinkedIn? Ils veulent donc pouvoir le lancer partout. Et LinkedIn doit avoir quelque chose sur lequel ils peuvent mettre leur annonce. Très bien, faisons une petite pause. Très bien, Chad, c'est acheter ou vendre, vous savez comment nous jouons à ce jeu, nous écoutons 3 sociétés qui ont récemment obtenu de l'argent et nous lisons un résumé, puis nous achetons ou vendons la société. Et pour une raison quelconque, je ne trouve pas mon boxeur. Ah, ça y est. Voilà, d'accord. D'accord. Maintenant, je suis d'humeur à jouer à l'achat ou à la vente. Très bien. Premièrement, nous avons MetaView, basé à Londres, l'un de vos favoris lors d'un récent peloton d'exécution. C'est un assistant IA pour rationaliser les processus de recrutement. Ils ont levé 7 millions de dollars de financement. Les fonds accéléreront le développement de produits et la croissance de l'équipe. Ils affirment qu'ils font déjà gagner aux équipes au moins 20 heures par embauche. Chad, vous n'étiez pas vraiment fan, comme je l'ai dit, mais il vous donne 7 millions de nouvelles raisons pour lesquelles vous devriez changer d'avis, acheter ou vendre MetaView.
Ouais, c'est drôle parce que nous avons parlé avec Jason Corsello plus tôt cette semaine d'Acadian Venture, et il parlait de « Du côté des semences, il y a beaucoup de « Il fait chaud, il y a beaucoup d'argent qui va être dépensé du côté des semences parce que les gens veulent dépenser cet argent. » Vous l'avez dit la semaine dernière, juste du côté de l'introduction en bourse, n'est-ce pas? Les gens veulent donc dépenser de l'argent. Mais dans un monde d'IA générative, les plateformes comme Google, Microsoft, Anthropic, Mistral et Meta vont gagner à moins que vous n'ayez la sauce secrète, et cette sauce secrète, ce sont des années de données, comme, par exemple, ATS et CRM. Entreprise, données comportementales. MetaView arrive bien trop tard pour la fête, la bière est partie, toutes les filles sexy sont évanouies, la seule chose que MetaView a pour elle, c'est un excellent PDG, et cela ne me suffit pas, c'est toujours. Même avec ces 7 des millions de raisons, c'est toujours une vente pour moi.
Très bien, Chad. Et les renseignements lors des entretiens sont chauds, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je sors avec beaucoup d'enfants qui parlent beaucoup de renseignements lors des entretiens. Maintenant, je pense que certaines solutions qui existent depuis un certain temps, Brightfire, divulgation complète, je suis un conseiller, honnête, on fait évoluer cette chose beaucoup plus longtemps, je pense, ou plus loin que MetaView. Mais c'est une vague qui va attirer beaucoup d'attention et de financement, et elle va devenir une cible d'acquisition pour quelqu'un dans les 2 ou 3 prochaines années. Donc si la mission est de vendre cette chose à 7 millions, pourrait-il la vendre à 50? Je suppose que nous verrons probablement Brightfire partir en premier. In, ça existe depuis un moment. Nick doit simplement aimer diriger cette entreprise et ne pas la vendre. Mais pour moi, je pense que c'est un achat, je pense que c'est une vague facile à surfer, même si le surfeur dans ce cas n'est peut-être pas le meilleur surfeur du monde. Mais pour moi, oui, je dois.
Que fais-tu, Stefano?
Je dois l'acheter, je dois l'acheter. Très bien, c'est MetaView. Ensuite, nous avons Modal.
Modal.
Modal Learning, une start-up fondée par 2 anciens dirigeants d'Udemy, a obtenu 25 millions de dollars en financement de série A, ce qui porte leur total à 32 millions de dollars. Modal propose une plateforme axée sur l'amélioration des compétences techniques des employés avec des cours sur l'IA générative, la gestion des données et l'analyse, entre autres. Chad, acheter ou vendre, Modal?
Je ne peux pas m'en empêcher, je dois acheter, acheter, acheter. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Toutes les entreprises sont des entreprises technologiques. Nous venons d'avoir une excellente conversation avec Marc Chaffet, PDG de Hackajob, plus tôt cette semaine. Et il a dit que Walmart absorbe en grande partie les talents technologiques que des gars comme votre copain, Zuck, suppriment, et que ces techniciens devront maintenir leurs compétences à jour, ils devront perfectionner ces compétences parce qu'ils doivent rester avec la vitesse de la technologie d'aujourd'hui. De plus, il existe toutes ces autres compétences techniques non technologiques sur lesquelles tous les employés devront être formés. Dernier point, mais non le moindre, vous l'avez mentionné, Shinkus et Yang, anciens présidents et PDG d'Udemy, sont les fondateurs. C'est trop facile, c'est exactement dans leur entrepôt, ils ont déjà vendu quelque chose comme ça. Acheter, acheter, acheter.
D'accord. Chad est un achat sur Modal.
Acheter, acheter, acheter.
Ouais, écoutez, les renseignements lors des entretiens sont chauds, la mise à l'échelle est encore plus chaude, il y aura beaucoup d'argent qui y sera consacré. Les entreprises veulent se développer, elles en ont assez de dépenser de l'argent en recrutement, en recruteurs et en agences. Par exemple, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement éduquer nos propres collaborateurs et les faire gravir les échelons de l'entreprise? Écoutez, c'est une idée qui a fait ses preuves, vous avez Gusto, Gloa, LinkedIn Learning, Degrade, Coursera, c'est un modèle éprouvé. Le seul risque pour ces gars-là est qu'ils se fassent écraser par celui qui devient Coca-Cola et Pepsi du monde du perfectionnement et qu'ils deviennent simplement un jeu de consolidation. Je pense qu'il y aura beaucoup de place pour les entreprises. Ils ont un modèle de tarification assez unique. Ils ne facturent aux entreprises que lorsque les employés terminent avec succès un cours. Il y a donc un peu comme s'il n'y avait aucun risque. Vous ne paierez que lorsque quelqu'un terminera un cours.
Je viendrai à la base.
Ce qui va être très favorable à beaucoup d'entreprises. Alors oui, pour moi aussi, c'est un gagnant, c'est un gagnant. D'accord. Notre dernière entreprise, vous allez adorer ces gars, Home From College. C'est vrai, le nom de l'entreprise est Home From College, une plateforme de carrière basée à Los Angeles. Ils ont collecté 5,4 millions de dollars en financement de démarrage. La plateforme s'adresse, vous l'aurez deviné, à la génération Z, proposant des postes à temps partiel et à temps plein, et sert des clients comme Poppy, Akife et Steve Madden. Rien n'est plus cool qu'une paire de Steve Maddens, tout le monde. Avec cet argent, Home for College prévoit d'élargir son équipe et d'ajouter davantage de produits pour les demandeurs d'emploi. Chad, acheter ou vendre Home from College?
Wow, mec. 5,4 millions de dollars en semences, c'est beaucoup d'argent, mais le problème est que l'université est éphémère, vous êtes à l'université jusqu'à ce que vous n'y soyez plus, puis vous arrêtez d'utiliser vos anciens systèmes d'emploi universitaires, puis vous passez à autre chose. Ensuite vous passez à LinkedIn, Indeed, Akajob ou partout où gravitent les personnes de votre secteur. Cela étant dit, vous devez soit collaborer étroitement avec les collèges et les universités, soit dépenser des tonnes d'argent en marketing mois après mois pour maintenir la pénétration du marché. J'ai personnellement de l'expérience dans la construction de ces types de systèmes de recrutement universitaire, de cauchemars, de travail. Directement avec les collèges, les universités, les directeurs de centres de carrière et les employeurs dont les équipes se concentrent sur l'embauche au sein de l'université. Et je me suis promis de ne plus jamais faire ça. C'est une vente, très facile pour moi.
Assez juste. Très bien, je vais faire vite parce qu'il nous reste beaucoup de spectacles à faire. Je déteste le nom, je déteste l'université, je déteste l'environnement universitaire. Vous avez raison, toutes les quelques années, il y a un nouveau joueur, la poignée de main.
À quand remonte la dernière fois que nous avons vu de leurs nouvelles?
Ouais, comme Monster Track ou quoi que ce soit. C'est juste une mauvaise affaire, je déteste le ciblage générationnel, c'est juste, c'est idiot pour moi. Écoutez, il existe déjà un outil de création de CV, il s'appelle LinkedIn, et il contient déjà toutes les personnes qui vont vous embaucher, alors ne plaisantez pas avec un site de retour à l'université pour créer votre CV. Accédez à LinkedIn, créez votre CV, tenez-le à jour et connectez-vous avec les gens. C'est un bien meilleur produit. Vous souvenez-vous de Visual CV à l'époque?
Oh ouais.
Cette chose a été essayée et réessayée, donc pour cela, oui, vous pouvez deviner que je suis un gros vendeur sur Home from College, au moins, c'est un point com, donc vous pouvez vous en souvenir.
C'est vrai, les enfants. Grand-père dit, obtenez votre profil sur LinkedIn.
C'est exact.
Très bien, parlons.
Parlez de nourriture.
Parlons un peu de nourriture, d'accord? Un peu de restauration rapide, un peu d'action rapide. Tout d'abord, nous avons Waffle House. Le syndicat des travailleurs des services du Sud a déposé une pétition contre Waffle House, alléguant que la chaîne déduit les frais de repas obligatoires des chèques de paie des travailleurs, même si les repas ne sont pas pris. Les travailleurs doivent payer au moins 3 dollars par repas pendant le quart de travail, ce qui a un impact sur ceux qui perçoivent un salaire inférieur au pourboire. Chad, vos pensées et quel est votre repas préféré à Waffle House? Parce que je sais qu'il y a environ 10.
Oui, il y a des éclaboussures et toutes ces autres choses amusantes, mais oui, cela vient du manuel de l'employé de Waffle House. Les repas doivent être consommés au restaurant et aucune nourriture ne peut être emportée à la maison en vertu de la politique en matière de repas. Effectivement, ramener à la maison par un tel associé sera considéré comme une commande à emporter et devra être payé au prix fort. Premièrement, toute entreprise qui dit ces conneries stupides dès le départ, c'est comme « allez vous faire foutre ». Mais le syndicat des travailleurs des services du Sud a qualifié cette situation de « particulièrement alarmante », puisque, comme vous l'avez dit, ces travailleurs gagnent un salaire inférieur au minimum. Qu'est-ce qu'un salaire minimum, les enfants? C'est 2,90 $ de l'heure. Oui, l'Europe, tu crois que tu te fais baiser parfois? 2,90 $ de l'heure plus les pourboires. Mais c'est un Waffle House, on parle de pourboire dans un Waffle House, ce n'est pas haut de gamme, d'accord?
Personne ne commande pour 200 $ de nourriture au Waffle House. Non.
Non, pour moi, c'est tout simplement ridicule, où se trouve le centre de gravité de ces Waffle Houses. La Géorgie en compte 381, la Caroline du Sud, 144, la Caroline du Nord, 142, la Floride, 133 et l'Alabama, 128. C'est dans le Sud, les pauvres. Si vous regardez là où se trouve la plus grande pauvreté aux États-Unis, c'est dans le Sud. Et Waffle House, tu n'aides pas.
Personne ne le remarque? J'ai l'impression de prendre des pilules folles.
Obtenons ces chiffres ici. Waffle House est donc une entreprise qui pèse 4 milliards de dollars par an.
Est-ce que c'est du profit?
Son président, un certain John Roger Jr. vaut 1,7 milliard de dollars. Si cela est vrai, Waffle House remporte le prix de l'entreprise douchebag de l'année, car Chad a raison, si vous n'êtes pas allé à Waffle House, vous manquez des enfants. Ce sont de bonnes personnes.
Oui.
Bien souvent, c'est la seule entreprise qui les embauchera. Je n'ai jamais eu de mauvaise expérience de la part d'un employé de Waffle House.
Bien, ok. C'est généralement à 14 heures.
Soit dit en passant, la bonne réponse est les biscuits et la sauce, ce qui est le meilleur de Waffle House. Mais oui, écoutez, si c'est vrai, Waffle House n'est pas sorti et a dit que ce n'était pas vrai. Ils n'ont pas dit, c'est pour ça, ou, nous l'inventons. Donc, de toute évidence, c'est vrai, Waffle House n'est pas venu, et ils ont un service de relations publiques, j'en suis sûr. Alors oui, c'est de la connerie, j'espère que le syndicat aura ce qu'il mérite, j'espère que cette pratique cessera parce que forcément, c'est du vol de salaire.
Oh ouais.
Au pire, et peut-être au mieux, c'est la cupidité des entreprises, mais c'est une pratique vraiment stupide, il faut qu'elle cesse.
C'est les deux.
Soyons honnêtes. Faire un tas de crêpes à Waffle House leur coûte probablement 30 cents, n'est-ce pas?
Peut-être.
Et donc, genre 3 dollars, c'est juste? Je ne sais pas, c'est juste vraiment. C'est vraiment mauvais, c'est vraiment mauvais. Waffle House, je dois aller à Yop maintenant.
Passons de l'autre côté du pendule. Parlons de la Californie.
Très bien, ouais. Je dois aller à Cracker Barrel maintenant. Très bien, en Californie, environ un demi-million d'employés de la restauration rapide gagnent désormais au moins 20 dollars de l'heure grâce à une nouvelle loi qui augmente les salaires pour les changements de restaurants dans plus de 60 établissements à travers le pays. La loi crée également un conseil de la restauration rapide, une première aux États-Unis, chargé d'ajuster chaque année les salaires en fonction de l'inflation ou jusqu'à 3,5% et de traiter de la sécurité des travailleurs et d'autres questions. Les propriétaires de certaines franchises de restauration rapide ont déjà augmenté les prix ou réduit les heures de travail en réponse à la hausse des salaires. Chad, est-ce que cela vous conduit à Californication ou est-ce juste un petit rêve californien?
Oui, au fil des années, on nous a raconté un tas de mensonges, beaucoup de mythes. Si nous payons à ces gens un salaire décent, nous allons devoir faire faillite, nous allons devoir augmenter les prix de la nourriture, etc., etc., etc. Eh bien, en novembre 2013, oui, il y a plus de 10 ans, Sitak a adopté la proposition 1, qui autorisait une politique de salaire minimum de 15 dollars, qui a été mise en œuvre progressivement sur plusieurs années. Cette politique est entrée en vigueur en janvier 2014. 6 mois plus tard, le conseil municipal de Seattle a étendu une politique similaire de salaire minimum de 15 dollars à près de 20 000 travailleurs. Il s'agit donc d'un excellent modèle à examiner lorsque nous envisageons de prédire les résultats, car cela s'est produit il y a plus de 10 ans. Est-ce que ça a tué les restaurants? Non. Depuis 2015, le nombre de restaurants à Seattle a augmenté de 5%. Cela représente plus de 3200 restaurants. Les ventes annuelles ont augmenté de 20%. La croissance de l'emploi à Seattle a dépassé celle du reste de l'État de Washington. Alors maintenant, revenons à Cali. Cali, le nouveau.
Cali, je ne pense pas.
Cali, 20 dollars de l'heure au salaire minimum. La dernière fois que la Californie a augmenté le salaire minimum à 16 dollars, devinez ce qui s'est passé? Les bénéfices ont augmenté. Pourquoi? Où pensez-vous que ces gens achètent de la nourriture? Quand on met de l'argent dans les poches des gens, ils le dépensent? Non. Ils peuvent en acheter davantage. Les propriétaires devraient donc arrêter de brailler en position fœtale et commencer à rechercher ces modèles. De nombreux restaurants de Seattle connaissent un chiffre d'affaires beaucoup plus faible et des bénéfices plus élevés à cause de cela. Ce n'est pas la merde dont Milton Friedman parlait, il avait peur, « Oh, tu vas perdre des gens, et tout l'argent doit aller au sommet. Va te faire foutre, Milton, j'espère que tu te retournes dans ta foutue tombe en ce moment parce que tu avais tort. Nous devons payer les gens. »
Il est avec Jack Welch et il n'est pas très content que tes paroles sortent de ta bouche. Il y a quelque chose que je n'aime pas à ce sujet, je n'aime pas qu'il y ait une règle selon laquelle si vous ne servez que du pain seul, vous êtes immunisé contre cela.
C'est bizarre.
Ce qui veut dire panera.
C'est bizarre.
Ce qui signifie que le pain panera est à l'écart. Et apparemment Newsom est panera. Il y a donc ici un peu de politique que je n'aime pas particulièrement, mais tout le reste devrait vous plaire. Écoutez, vous devez avoir plus de 60 emplacements, ce qui signifie que cela ne tue pas le barbecue des mamans et des papas dans la rue, cela ne tue pas la taqueria, leur favori du centre-ville, quel que soit l'établissement. Il s'agit donc principalement de grandes entreprises avec beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Et donc l'alarmisme était que les prix allaient devenir fous, vous n'allez pas pouvoir vous le permettre. Nous avons donc notre première indication de ce que signifient les augmentations de prix. Il y avait un hamburger In-N-Out avant le 1er avril et après le 1er avril en termes de prix, donc je pense que je paie 10 cents de plus pour un cheeseburger, je paie environ 5 cents de plus pour un hamburger, peut-être 20 cents de plus pour un hamburger. Une secousse. Les frites n'ont pas augmenté, donc les pommes de terre doivent très bien pousser en termes de croissance.
Bon marché.
Ce n'est donc pas comme si mon cheeseburger était passé de 3,99 à 10,99. Les augmentations de prix sont donc négligeables. Ces gens qui ont du mal à gagner leur vie vont désormais pouvoir le faire. En passant, nous savons que lorsque les pauvres reçoivent plus d'argent, ils le dépensent en nourriture, en essence, en consommables, en iPad.
Imagine ça.
Ouais, donc la majeure partie va revenir dans le cycle. Lorsque vous donnez beaucoup d'argent aux riches, ils le mettent dans une banque ou le stockent.
Ils ne le dépensent pas.
Ils ne se contentent pas de le dépenser, donc donner de l'argent aux personnes sans moyens est généralement une bonne chose pour maintenir la robustesse de l'économie. Maintenant, qu'est-ce qui sera intéressant à voir? Donc je ne pense pas qu'il y ait d'Armageddon, je ne pense pas que le ciel nous tombe sur la tête, je pense que tout ira bien. Franchement, $20 devrait être 25, nous en avons parlé plusieurs fois dans l'émission.
Surtout en Californie.
Mais 20, ce n'est pas tout à fait suffisant, surtout en Californie. Je pense qu'ils devraient utiliser cela comme un outil de recrutement pour inciter les gens à s'installer en Californie en raison du salaire minimum plus élevé et à quitter le Texas et la Floride. Alors, qui va servir votre Barbara Cobol s'ils sont tous en Californie pour gagner plus d'argent? Je pense que c'est intéressant. C'est une question politisée à grande échelle.
Allez comprendre.
Le New York Post, publication divertissante de droite, dans le dernier. Leur titre était « Les lois californiennes sur le salaire minimum dans la restauration rapide sont déjà un désastre et New York en veut aussi. Donc ça va être politisé, mais il n'y a pas de situation qui nous tombe sur la tête en Californie. Personne ne l'est. Maintenant, certaines personnes vont-elles perdre leur emploi? Probablement, je pense que les meilleurs resteront, et peut-être que certains des pires seront laissés partir, il y aura des gens qui seront sacrifiés pour cela. Les prix n'explosent pas, comme je pense que les gens craignaient. Je pense que cela augmentera ou accélérera les investissements dans les robots, je pense que c'est inévitable, peu importe où nous en sommes. Les gens détestent embaucher des gens, quel que soit leur salaire. Ce qui est intéressant, ce sera dans 10 ans, lorsque nous espérons ne plus faire la série, mais à quoi ressembleront les fast-food? Est-ce comme un très petit groupe de professionnels qui gagnent de très bons salaires et qui gèrent les robots et le service client? Les restaurants seront probablement très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui.
Probablement.
Mais est-ce qu'on fait l'émission pour en parler? Je ne sais pas. Mais c'est une bonne chose, mes amis, c'est une bonne chose.
Ouais, je serai sur la plage au Portugal, où nous n'avons pas de restauration rapide, donc je m'en fous, quoi qu'il arrive. J'écoute Kibo.
Ouais. Cependant, j'apprécie occasionnellement le Burger King lorsque je suis en Europe.
Oh ouais.
Dans 5, les gars. Très bien, Chad, Amazon supprime la technologie Just Walk Out de ses magasins Amazon Fresh et les remplace par des chariots intelligents qui permettent aux clients d'éviter la file d'attente mais de voir leurs dépenses en temps réel. Le changement intervient suite aux commentaires des clients et fait partie d'une refonte de la chaîne d'épicerie. La technologie Just Walk Out sera disponible dans les magasins Amazon Go et dans certains petits magasins Amazon Fresh au Royaume-Uni, ainsi que chez les détaillants tiers. Mais de toute évidence, ce programme est dans les cordes. Chad, que pensez-vous de la dernière décision d'Amazon?
Ouais, je pense que les chariots intelligents sont incroyablement intelligents. J'espère juste que ce n'est pas comme un ennemi de l'État, où ils ont des caméras partout pour les surveiller. Je veux dire, ça devient un peu trop dystopique pour moi. Mais oui, pour pouvoir voir l'innovation arriver dans les courses alimentaires, la seule chose que nous avons vue dans l'innovation pour les courses alimentaires, évidemment, les éléments de back-office, puis aussi les stocks, ce genre de choses. Cela a beaucoup de sens, mais les caisses automatiques, qu'ils vont réduire, seront-elles éventuellement en remplacement des caisses automatiques à l'avenir? Je ne sais pas, mais ce sera intéressant à regarder, c'est sûr.
Ouais. De toute évidence, le libre-service est en pleine évolution, la panacée du type laisser les gens payer eux-mêmes, pas de caissier, ou simplement sortir n'est pas vraiment conçu pour les êtres humains. Les êtres humains sont comme, il suffit de rester. Tenez-vous à votre caisse libre-service locale lorsque vous avez du temps libre. Les gens disent qu'ils ne le scannent pas correctement, ils l'enlèvent du poids.
Cela prend une éternité. Ouais.
Et ils vont recommencer. Comme s'il y avait 6 personnes à la caisse, il y a une personne qui doit s'occuper de 6 personnes, 2 d'entre elles ne savent pas ce qu'elles font, la 3e a besoin d'une vérification de l'âge parce qu'elle achète de l'alcool. Vous vous retrouvez dans cette boucle infinie dans laquelle vous attendez que la personne vous vérifie et que vous l'attendiez. Et puis les gens ne sont tout simplement pas accueillis en libre-service. Et donc vous voyez Dollar Store, Target. Walmart dit que nous supprimons progressivement une partie de cela. Et je pense qu'il s'agit d'une expérience d'Amazon qui ne s'est probablement pas déroulée comme il l'espérait. Écoutez, Amazon a fait beaucoup de choses folles lorsque Bezos était à la barre, que ce soit Whole Foods ou MGM Studios. Pourquoi? Je suppose qu'ils s'intéressent davantage aux médias, au téléphone Fire, vous vous souvenez? Personne n'a acheté.
Non.
Et heureusement, sous Jassy, ils se sont concentrés sur 3 choses qui leur réussissent vraiment. Commerce électronique, AWS et publicité. Les gens ne comprennent pas, Amazon est comme la 3e plus grande plateforme publicitaire. Ce sont de très bonnes entreprises rentables qui ne sont pas pénibles. Donc, toute cette histoire de paiement avec Whole Foods doit être un embêtement dont ils ne veulent pas s'occuper, mais ils doivent le faire parce qu'ils ont dépensé combien de milliards en Whole Foods. Ils doivent donc y réfléchir. Je ne sais pas si ça va marcher, je n'ai pas d'espoir que l'humanité obtienne un. Je vais prendre un chariot et il suivra ce que j'ai mis dans le chariot, et ensuite, je pourrai simplement sortir. Quand dois-je mettre ma carte de crédit? Vous avez vu des vidéos de Just Walk Out, où les gens se disaient, que dois-je faire? Sortir?
Sortez.
Je pense qu'il y avait un. Il y avait une comédie sur des Noirs, il disait, attendez, non, 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 je ne vais pas simplement m'en aller. Où dois-je payer pour cela?
Ouais, pas de merde, non.
Non, je ne tombe pas dans le panneau.
Historiquement, je ne repars pas avec de la merde.
Droite. Ouais. Je ne fais pas ça. Où est la caméra? Est-ce que je me fais pinker ici?
Ouais, je réfléchis. Une configuration.
Je pense donc qu'Amazon doit se concentrer sur ce qu'il fait bien, se débarrasser de ses projets parallèles induisant de l'orgueil et revenir à l'essentiel, mais ce n'est pas la seule grande entreprise à avoir un petit problème d'image ou quoi d'autre. Ce sera quand ils seront grands, un problème. Apple, la plus grande entreprise de la planète, étudie le développement d'un robot mobile capable de suivre les utilisateurs dans leur maison et d'un écran robotique intelligent pour les maisons, mais elle n'en est qu'à ses débuts et n'est pas encore engagée à lancer ses produits. L'entreprise est sous pression pour trouver de nouvelles sources de revenus et considère la robotique comme une opportunité potentielle d'étendre sa présence sur le marché national. L'accent mis sur l'IA et l'apprentissage automatique fait partie de la stratégie de croissance future d'Apple, mais l'entreprise ne s'est encore engagée dans aucun de ses projets. Chad, êtes-vous prêt à ce que les robots Apple vous suivent partout dans votre maison? Et plus encore, vos chiens sont-ils prêts à ce qu'un robot vous suive partout dans votre maison?
Ouais, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était les Jetson et Rosie, leurs robots qui les suivaient partout. Vous auriez pensé que c'était vraiment cool. Maintenant, j'ai mon propre logement, mes propres chiens, et je n'en ai plus besoin. J'ai des robots qui aspirent mon tapis et peuvent éventuellement nettoyer mon sol, mais je n'ai pas besoin de ces autres conneries. Parfois, j'ai envie de débrancher mon Google Home juste parce que cet enfoiré m'écoute tout le temps, donc je pense que c'est littéralement un pont trop loin pour moi, du moins, je ne suis tout simplement pas sûr du temps qu'il faudra pour que la société démarre. Eh bien, d'abord et avant tout, le coût, non? Donc le coût sera. Cela sera un facteur, mais la société sera-t-elle à l'aise avec quelque chose comme ça dans la maison tout le temps? Je ne sais pas. Je sais juste que je ne le ferai pas.
Puis-je coucher avec un robot et est-ce qu'il ressemble à Jennifer Aniston? C'est la question que je suppose que je me pose à propos de cette chose. Ce n'est évidemment pas le cas.
Nous nous connecterons à votre page OnlyFans.
Écoutez, une partie de moi se sent mal pour ces grandes entreprises qui doivent faire ces énormes changements. Ils ne peuvent pas se contenter de se lancer dans des trucs. Et Apple, post-Steve Jobs, c'est comme les AirPods et techniquement, les montres qui ont eu du succès, qui sont en réalité des extensions de l'iPhone. Écoutez, ils ont essayé les téléviseurs, la rumeur dit qu'ils silencent.
Voiture.
La rumeur disait qu'il avait des voitures.
Ouais. N'arrive pas.
Apple Home était une chose, CarPlay devrait être une chose, ils n'arrivent tout simplement pas à faire les choses correctement.
Non.
Et ce n'est pas ça. Écoutez, les Vision Pro, mort à l'arrivée, je n'ai plus entendu parler d'eux depuis leur lancement. Je porte des lunettes, Chad, et ma dernière paire sont les lunettes Meta Ray-Ban, qui sont géniales, car on ne sait pas vraiment que ce sont des lunettes intelligentes. Je peux écouter de la musique ou des podcasts pendant que ma femme me crie dessus parce que je n'ai pas bien tendu le jardin. J'écoute juste ça. Je peux prendre des photos et des vidéos. C'est le genre de choses qu'Apple doit développer. Ils doivent acheter Warby Parker ou s'associer avec Prada ou Dolce & Gabbana et créer des lunettes intelligentes qui sont comme ça, qui sont cool. On ne sait pas vraiment qu'elles sont là. Ces grandes fluctuations les gâchent. Je suppose qu'en guise de dernière réflexion, Amazon et Apple pourraient peut-être s'associer et créer une fusée à pénis qui pourrait me suivre dans ma maison. Cela, mes amis, ressemble à un coup de circuit. Et avec ça, nous sortons.
Dehors.
Thank you for listening to what's it called? The podcast. The Chad. The Cheese. Brilliant. They talk about recruiting. They talk about technology. But most of all, they talk about nothing. Just a lot of shout-outs of people you don't even know. And yet, you're listening. It's incredible. And not one word about cheese. Not one. Cheddar. Blue. Nacho. Pepper Jack. Swiss. So many cheeses. And not one word. So weird. Anywho, be sure to subscribe today on iTunes, Spotify, Google Play, or wherever you listen to your podcasts. That way you won't miss an episode. And while you're at it, visit www.chadcheese.com. Just don't expect to find any recipes for grilled cheese. It's so weird. We out!